Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et on va être un peu plus sérieux pour accueillir notre invité de la matinale, invité politique Tarand Marek, secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal, délégué à la vitalité de la langue bretonne à Brest. Il est venu, il s'est levé très tôt pour être avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, bonjour.
Bonjour et merci de l'invitation.
Alors, on va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin dans la matinale de Bretagne 5. Il ne vous aura pas échappé que le gouvernement est presque prêt, des noms même déjà circulent. Un gouvernement qui s'inscrit quand même plutôt dans une forme de continuité, pas de personnalité de gauche, peut-être une personnalité d'hiver gauche qui est annoncée, sans plus, plutôt un gouvernement de droite. J'allais presque dire tout ça pour ça.
Oui, clairement, il a pris Emmanuel Macron a pris tout son temps pour choisir un Premier ministre, pour finalement faire la même politique que depuis des années. C'est quand même sacrément surprenant, étant donné que les Français ont montré clairement leur rupture avec la politique du gouvernement. On a eu une vision claire du fait que voilà, les Français ont voté pour autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. On peut se poser la question de qui a gagné, qui a perdu, mais la réalité, elle est claire. Le grand perdant, c'est la politique d'Emmanuel Macron depuis ces dernières années. Les Français ont dit clairement qu'ils voulaient autre chose. Nous, à gauche, nous avons une proposition. On a été majoritaire avec cette proposition. Certes, une majorité relative, mais la volonté de rupture était là. Et je trouve ça absolument absurde, le choix d'Emmanuel Macron de rester dans la continuité, de foncer droit au mur. Et avec un Premier ministre de droite qui va presque draguer sur les plates-bandes de l'extrême droite, sur certains sujets comme l'immigration. C'est du Macron comme d'habitude, hein, comme depuis des années. Je trouve ça désolant qu'il ne cherche pas à avoir un peu d'ambition sociale, ce qui est demandé par les Français qui ont mal vécu ces dernières crises, que ce soit la crise Covid, l'inflation. Un peu d'espoir aurait été la bienvenue, mais Emmanuel Macron a fait le choix de la rigueur, l'austérité et d'une politique de casse sociale et de casse des services publics comme il l'a fait depuis des années.
Vous avez une crainte justement que ce nouveau gouvernement qui est presque annoncé, au-delà de la continuité, soit aussi un gouvernement qui serre un peu plus la vis du côté social, qui soit un peu plus à droite, un gouvernement libéral en un mot?
Bah, ça c'est ce qu'il fait depuis des années, hein. Ça c'est un gouvernement libéral depuis des années. Après, on voit avec les problématiques budgétaires qu'on s'oriente vers une austérité. Et moi, en tant que responsable de jeunes communistes, je dis la jeunesse a été la jeunesse sacrifiée du Covid, la jeunesse a été la jeunesse sacrifiée de l'inflation. Et cette fois, on va dire non, on ne veut pas être la jeunesse sacrifiée de l'austérité qui va subir encore plus d'économies, qui va être encore plus dans la misère. Une jeunesse qui a déjà du mal à se nourrir, qui a du mal à se loger, qui a du mal à avoir accès à des études, à un travail digne. Et on voudrait encore faire des économies sur cette jeunesse, faire en sorte de serrer la vis, alors qu'à côté de ça, il y a des grandes fortunes qui s'enrichissent. Et on l'a vu avec Barnier, hein, il a dit clairement qu'il ne voulait pas toucher à l'ISF, mais c'est absurde. On est dans une situation où les riches sont de plus en plus riches depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et on ne veut pas aller chercher l'argent là où il est, on veut aller chercher là où les gens n'ont plus d'argent. Les gens sont dans la précarité, et il faudrait aller leur prendre encore plus d'argent, alors qu'ils ont du mal à finir leur fin de mois, alors qu'ils n'ont pas pu aller en vacances cet été, alors qu'ils vont avoir du mal cet hiver à se chauffer, et on leur dit bah, il va falloir faire des économies. C'est totalement déconnecté de la réalité.
Avec justement des annonces peut-être d'augmentation des impôts. Alors pour l'instant, le projet est un peu flou, d'autant que le budget n'a pas encore été finalisé. Il devait être présenté le 1er octobre, ça sera finalement le 9 octobre. Sans doute même après le discours de politique générale du Premier ministre qu'on annonce pour le 1er octobre. Voilà, on navigue un peu à vue. Vous parliez, Tarand Marek, de la jeunesse. On lisait ce matin dans la presse, chez nos confrères, je crois, du Télégramme ou d'Ouest France, que la précarité étudiante gagne du terrain. Les associations nourrissent les étudiants aujourd'hui qui parfois n'arrivent pas à se nourrir, n'arrivent pas à se loger aussi. Est-ce que pour vous, le sursaut, aujourd'hui peut venir de la jeunesse.
Oui, clairement, ça, on a été sur le terrain dès la rentrée, nous, dès les premiers jours de rentrée, au contact de ces nouveaux étudiants avec les jeunes communistes à Brest. Et on voit clairement qu'il y a une jeunesse qui est prête à s'engager. Et nous, au mouvement des jeunes communistes, on arrive avec 10 propositions parce que après cette période où tout le monde a été divisé, où la France a été divisée, on a envie de rassembler autour de 10 propositions pour la jeunesse qui va d'un côté, on propose l'anonymisation des CV, de l'autre côté, pour toucher la ruralité où le permis est important, on défend la gratuité du permis de conduire. D'un autre, on demande pour les étudiants la construction de logements sociaux pour les étudiants et la suppression de Parcoursup parce que chaque année, c'est une catastrophe pour ces étudiants qui n'ont pas de solution après le bac et qui se retrouvent à devoir avoir une solution de bricolage au dernier moment. On a 10 propositions pour la jeunesse qui permettent de rassembler toute la jeunesse et on est sur le terrain pour aller parler à cette jeunesse et leur dire que c'est par eux que viendra la solution. Et à cette jeunesse, on leur demande, organisez-vous dans vos organisations politiques. Nous, on vous propose le mouvement des jeunes communistes. Et avec nous, on pourra faire changer les choses. Parce qu'on n'est pas sûr de ce que va faire le gouvernement. On a une assemblée qui n'est pas certaine. Mais c'est par la mobilisation sociale qu'on va y arriver. Et c'est en faisant en sorte que la jeunesse s'organise. Et cette jeunesse a la capacité, elle a l'envie de faire changer les choses. Et moi, je crois très fort en cette jeunesse et c'est pour ça que je les appelle à adhérer et à rejoindre le mouvement des jeunes communistes pour pouvoir faire changer les choses.
Est-ce que vous comprenez, que ce soit à titre personnel ou plus à titre politique, que Emmanuel Macron n'ait pas souhaité introduire la gauche, finalement, qui a remporté les élections? Alors, j'allais presque dire à égalité avec l'extrême droite, mais la gauche dans le gouvernement, vous comprenez cette réticence à faire entrer finalement les forces de gauche dans un gouvernement qui devrait être de coalition ?
Ça me surprend pas. Ça, le gouvernement jusqu'à présent d'Emmanuel Macron a été marqué sur une constante, c'est la politique ultralibérale. Et une politique d'économie toujours sur le service public, d'économie sur les travailleurs les plus précaires. Et c'est l'extrême opposé de ce que veut la gauche. Et c'est l'extrême opposé de ce que la gauche a réussi à faire avec le programme du NFP. Et c'était évident qu'un président qui a comme seul sujet la politique libérale ultra-capitaliste ne voudrait pas d'un gouvernement qui comprenne des propositions sociales et... C'est malheureux, mais c'est l'ADN même d'En Marche depuis le début. Et nous, à gauche, on a une toute autre proposition qui est en rupture avec la politique ultralibérale d'Emmanuel Macron, qui défend du service public de proximité, qui défend l'augmentation des salaires, qui défend des meilleures conditions de vie pour tous, qui défend aussi une réelle lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est l'extrême opposé de ce que fait Emmanuel Macron depuis des années. Et évidemment que... il allait refuser la démocratie face à lui qui s'est exprimé dans ces élections.
Et pourtant, il y a eu un message clair adressé par les Françaises, par les Français, au personnel politique, aux dirigeants, au gouvernement, en disant voilà, il faut une rupture, il faut changer. Et on a vu les forces de gauche et également le Rassemblement national gagner du terrain. Est-ce que ça vous inquiète, ce terrain conquis par le Rassemblement national ?
Oui, bah évidemment, ça m'inquiète. Je pense que c'est une situation particulièrement difficile de voir tous ces gens qui sont poussés dans un niveau de misère tel que la solution de l'extrême droite leur semble une solution, mais c'est clairement pas l'extrême droite qui changera leur vie, quoi, étant donné que l'extrême droite se complaît aussi dans la politique libérale d'Emmanuel Macron. Ce qu'ils demanderont juste, c'est des politiques un peu plus inhumaines envers les populations issues d'immigration, les populations racisées. L'extrême droite va juste diviser les Français tout en continuant une politique ultralibérale de destruction du service public. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de différence réelle au niveau économique entre l'extrême droite et Emmanuel Macron.
Alors, avec donc une situation politique, alors, division hein, entre les Français, une forme de fracture en tout cas idéologique entre les Français, puis aussi beaucoup d'incertitudes au niveau de ce nouveau gouvernement qui va être annoncé peut-être dans les heures qui viennent, avec le risque de la motion de censure, c'est-à-dire on repart de la feuille blanche, on recommence. on risque de rentrer dans une grande période d'instabilité, alors que le pays aurait besoin de cohésion. Là aussi, c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter ?
Je pense que il y a eu une majorité qui s'est exprimée. Moi, j'appelle Emmanuel Macron à peut-être se poser la question aussi d'avancer un peu sur les problématiques sociales, de faire un pas pour essayer de défendre un peu nos services publics, de défendre une politique un peu sociale. Au début de son premier quinquennat, il expliquait qu'il était ni de gauche ni de droite. Bah, si son petit côté de gauche pouvait ressortir un peu, peut-être qu'il y aurait des solutions qui s'ouvriraient à nous pour réunir un peu le pays, mais je pense qu'il s'entête, comme à son habitude, dans une politique ultralibérale et aller draguer les électeurs d'extrême droite au lieu d'essayer de ramener aussi un peu de social dans le débat public.
Alors, il y a la gauche qui est là avec une union de la gauche, le nouveau Front Populaire. Alors, ça tangue un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup aussi de volonté, puis parfois un peu d'inimitié, il faut bien le dire, comme dans tout mouvement politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le but, c'est de tenir pour la suite, finalement, que l'union de la gauche ne se fracture pas ?
Oui, bah, je n'ai pas trop d'inquiétude dans l'avenir de l'union de la gauche. Hein, on a de tout temps eu des disputes entre forces politiques de gauche, mais on l'a vu avec le NFP qu'en très peu de temps, on a réussi à avoir un programme. On sera présents ensemble sur les différents rassemblements. On était présents le 7 septembre dernier ensemble. On sera présents le 1er octobre ensemble. Moi, je n'ai aucune inquiétude. Moi, je ressors tout juste d'une grande fête populaire, la fête de l'humanité, où toutes les forces de gauche étaient présentes, où on a tous débattu ensemble, et qui a été un grand moment de cohésion à gauche. Je n'ai aucune inquiétude pour cette gauche de réussir à travailler ensemble face à un gouvernement ultralibéral ou d'extrême droite.
Alors, on a déjà des choses qui se dessinent pour 2027. On a vu la candidature, j'allais dire presque assez rapide, d'Édouard Philippe. Est-ce que aujourd'hui, ça va aller très vite, finalement, 3 ans, ça passe très vite, dans une ambiance politique qui va être compliquée. Est-ce que déjà la gauche pense à la suite ? Alors, quand je dis la gauche, je parle de l'union de la gauche. Est-ce que l'union de la gauche prépare la suite, prépare déjà, en un mot, 2027 ? Entre-temps, on aura eu aussi des élections municipales, et elles sont importantes. Mais est-ce qu'il y a déjà, j'allais dire, une ébauche pour la suite ?
Oui, bah je pense que déjà, le nouveau Front Populaire, en créant un programme commun qui unisse tout le monde, a déjà beaucoup travaillé à la suite. Après, la suite pour la gauche, ça se voit aussi à très long terme. Mmh. Je pense que dès le 1er octobre prochain, ce sera une date importante parce que c'est une manifestation à l'appel des syndicats. Et c'est là aussi l'avenir de la gauche. C'est par les organisations politiques qu'elles se renforcent parce qu'à gauche, nos organisations politiques auront un rôle extrêmement important, que ce soit pour former, que ce soit pour mobiliser, et les syndicats pour représenter les travailleurs ont un rôle extrêmement important, et c'est là que se joue l'avenir, parce que quelles que soient les politiques qui seront menées les années à venir, on aura besoin d'un mouvement social qui soit structuré, qui soit fort, et on appelle tous les travailleurs à rejoindre des syndicats, à s'engager, à rejoindre des partis politiques, parce que c'est comme ça qu'on fera changer les choses, c'est avec une gauche qui est structurée et qui est forte. Et je pense que l'avenir, à très long terme, se voit aussi par là.
Alors, on parle aussi des territoires, beaucoup aujourd'hui. Vous êtes élu à Brest, hein, je le disais en commençant, Taran Marek. Les territoires sont malmenés un petit peu aujourd'hui. On a entendu l'ancien, on peut le dire maintenant, ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a pointé du doigt les finances, alors avec les finances publiques qui sont dans l'état que l'on connaît, et une augmentation finalement du déficit d'à peu près 16 milliards d'euros, c'est pas négligeable, en disant voilà, finalement sur le terrain, les collectivités territoriales, les collectivités locales, eh bien elles gèrent mal, elles dépensent trop. Qu'est-ce que vous, si vous l'aviez là, Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous auriez eu envie de lui répondre ?
Bah, je commencerai déjà par reprendre ce qui a été dit hier par Tristan Fauveau, que vous avez eu comme invité, qui est dans la même majorité que moi, et avec Brest comme bel exemple, où la gauche depuis des années tient la ville et le budget est très bien tenu. J'ai aucune inquiétude sur l'avenir de nos budgets, mais clairement, on voit que le gouvernement cherche à détourner la tête, alors que s'il y a un problème dans les collectivités, c'est bien parce que l'État se désengage depuis des années. On voit avec la sécurité, c'est pas le rôle des collectivités locales de faire la sécurité à la place de l'État, et pourtant l'État se désengage. c'est pas le rôle des collectivités de faire une politique de santé avec les hôpitaux qui ferment un à un, avec les services qui ferment. Et pourtant, l'État se désengage. Du coup, les collectivités doivent chercher des médecins, essayer de trouver des solutions pour compenser ces manques. Et c'est ça, sur toutes les politiques de l'État, il y a un désengagement depuis des années. On demande aux collectivités locales de faire plus avec toujours moins de budget parce qu'on leur enlève aussi des sources de financement. Évidemment qu'il y a un problème au dernier moment, et je ne pense pas que le problème soit dans les collectivités locales. C'est bien plus le désengagement de l'État qui met à mal les collectivités locales, et les collectivités locales qui font un travail extraordinaire pour tenir des comptes alors que l'État s'est désengagé. Je pense que réellement, comme l'a dit Tristan Fauvoyer, il devrait un peu plus regarder la façon dont les collectivités locales tiennent leur budget et s'en inspirer, parce que le gouvernement a beaucoup à apprendre des collectivités locales, ça c'est sûr.
Il faut plus de décentralisation, là aussi, pour que les collectivités locales soient plus à l'aise pour gérer leur budget, évidemment en considérant que l'État donne les moyens, mais il faut plus de décentralisation pour pouvoir décider plus en local, plus en réalité par rapport au terrain.
Bah, on en avait déjà parlé la dernière fois que j'étais venu, quand on parlait de la région Bretagne, plus de pouvoir pour la région. Mais clairement, s'il n'y a pas les moyens qui vont avec, ça n'a aucun sens. On peut faire de la décentralisation, mais sans moyens supplémentaires, ça ne servirait à pas grand-chose. Et c'est le cas jusqu'à présent. Quand on fait de la décentralisation dans un État libéral, c'est pour faire des économies et faire en sorte que les collectivités locales trouvent une ligne budgétaire pour financer une politique qui était jusqu'à présent tenue par l'État. Et finalement, ça peut faire qu'une politique de mauvaise qualité, étant donné qu'il n'y a pas les finances qui vont avec. Et c'est ça le plus important.
Là encore, le terrain, je le disais en commençant, il y a eu cette alerte des Françaises, des Français, des électeurs qui se sont tournés vers un vote de colère, parfois d'adhésion vers le Rassemblement National. Souvent, lorsque l'on discute avec ces électeurs, c'est voilà, on est abandonné, les territoires ruraux sont abandonnés, la poste a fermé, parfois la gare, parfois d'autres services publics, et évidemment la santé, le médecin qui n'est plus là. Est-ce que demain, il faut mettre en place un grand plan pour réintroduire le service public ou les services publics dans les territoires, que ce soit urbain, hein, dans les quartiers ou dans les campagnes?
Oui, clairement, je pense que sur le service public, on a tous à peu près le même problème. On voit dans les grandes villes, dans les quartiers, les bureaux de poste qui ferment aussi. La réalité du recul du service public est partout. Hein. On voit l'hôpital de Brest, les urgences qui sont dans un sale état. Et dans les petits villages, c'est les services publics de proximité qui disparaissent aussi. Globalement, il faut remettre du service public, il faut avoir une ambition de service public. Il faut aussi une politique aussi importante dans la ruralité, parce qu'il y a une réelle situation d'inégalité qui se creuse. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans nos 10 propositions au mouvement des jeunes communistes, on a la proposition de la gratuité du permis de conduire.
Parce que la mobilité est importante,
c'est ça,
finalement, en campagne.
Pour les jeunes. Et ça crée une réelle inégalité dans notre époque, le fait d'avoir ou ne pas avoir de permis de conduire. Et ça fait partie des choses où il va falloir agir vite, parce que les inégalités se creusent de plus en plus, et nos petites villes bretonnes se vident de leurs services publics, se vident de leur population et se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles où on se retrouve avec des villes pavillonnaires avec que des maisons secondaires, et la vitalité de ces villes qui disparaissent, et c'est tout à fait terrible.
Avec justement, vous le pointez du doigt, ce problème du logement particulièrement visible ici en Bretagne. Là aussi, il faut que les collectivités territoriales prennent les choses en main, décident pour que tous les Bretons ou ceux qui viennent en Bretagne puissent se loger.
Oui, clairement, il faut pouvoir décider. Mais on a un outil qui fonctionne généralement bien, qui est les logements sociaux, où avec une réelle politique d'ambition de construction de logements sociaux. On a l'exemple pour les étudiants, où c'est en faisant aussi des logements pour étudiants qu'on arrivera aussi à donner des logements dignes à tout le monde. Mais dans les petites villes, il y a aussi un besoin de logements sociaux, et il faut pousser et soutenir ces collectivités dans la construction de logements sociaux pour permettre à la population qui travaille dans ces villes de pouvoir vivre dans ces villes. Et on le voit sur les communes du littoral où les prix des loyers explosent. C'est réellement important et urgent de faire en sorte que les travailleurs qui vivent dans ces villes, qui permettent d'avoir des enfants dans les écoles, qui permettent d'avoir une vie, parce que s'il y a plus d'enfants, les villes se meurent aussi. Mmh. C'est en permettant aux gens, via du logement social, via aussi une politique de contrôle sur les Airbnb par exemple, qu'on arrivera réellement à refaire vivre aussi nos villes.
Alors refaire vivre des villes, donner des moyens, alors on parlait de l'hôpital tout à l'heure, où aller chercher ces moyens aujourd'hui, parce que on le comprend bien, l'État, en tout cas le futur gouvernement, le poste de Bercy n'est pas envié, va devoir faire des économies, mais va devoir aussi continuer à développer les territoires, à développer la France. L'équation semble difficile.
Je pense qu'il y a une source de financement qui est assez importante, qui est négligée. Hein. Déjà, on parle de l'ISF. Mmh. Hein, le gouvernement qui... le Premier ministre qui dit directement qu'il ne veut pas toucher à l'ISF. Il y a un moment, si on ne va pas chercher l'argent dans les poches de ceux qui en ont beaucoup, il y a une réelle inégalité entre les impôts qui sont payés par les plus précaires et les impôts qui sont payés par les plus riches. Il y a un moment, si on ne va pas chercher l'argent là où il est, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et il y a des grandes fortunes, il y a des entreprises qui tournent très bien, qui s'enrichissent. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont dans la précarité absolue. Si on continue à vouloir faire des économies chez les gens les plus précaires, on va arriver dans un cercle vicieux où les économies qu'on fait vont amener à plus de dépenses parce que si on fait en sorte qu'on n'a pas les services publics qui permettent de gérer les crises, et ça on a vu les crises, on a vu la tempête Ciara, on a vu tout le Covid aussi, on a vu aussi plein de crises où ces situations-là où on a besoin de services publics, et quand on n'a pas ces services publics, on dépense encore plus d'argent parce qu'il faut faire du bricolage au dernier moment. Alors à un moment, si on met l'argent là où on en a besoin, dans le service public, dans des ambitions sociales, c'est des économies qui seront faites à long terme. Et à côté de ça, il faut aller chercher l'argent là où il est, chez la poche les plus riches.
À gauche, on plaide la rupture finalement en termes d'économie. C'est ça qui fait peur, cette notion de rupture?
Je pense qu'il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait une réelle rupture. La seule rupture qu'il y a, c'est entre le capital et la population. Je pense que les Français... Ne se verront pas en rupture avec l'augmentation des salaires, ne se verront pas en rupture avec plus de services publics. Il y a la seule rupture qu'il y a, c'est avec la politique du gouvernement. Et on a vu sur les dernières élections que les gens rejetaient la politique du gouvernement massivement. Je pense que la rupture, elle a été actée par les urnes et il serait temps de la mettre en place.
Alors, Taran Marek, il nous reste allez, deux, trois petites minutes. Je voulais vous entendre sur un sujet peut-être un peu plus local. La langue bretonne, il en est beaucoup de questions aujourd'hui. On a lu dans la presse ces derniers temps les inquiétudes autour de Diwan. Alors, pour nos auditeurs lointains, Diwan, ce sont les écoles bilingues, breton, français-breton, qui sont là depuis des années, avec des inquiétudes. Elles manquent d'argent, ces écoles. Je le disais en commençant, hein, vous êtes conseiller municipal délégué à la vitalité et à la vitalité de la langue bretonne. Je vais y arriver à Brest. J'imagine que c'est un sujet qui vous préoccupe.
Oui, tout à fait. La langue bretonne est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et on a communiqué là-dessus avec le groupe des élus communistes. Diwan est un réseau d'écoles associatives qui partagent nos valeurs en étant gratuites et laïques, mais qui a des difficultés financières actuellement. Et c'est un sujet qui nous inquiète énormément, étant donné que Diwan a joué depuis le début un rôle extrêmement important pour structurer la défense de la langue bretonne. Diwan, par l'enseignement immersif, a fait beaucoup pour la langue bretonne et aussi pour la vie culturelle, parce que le réseau Diwan a été aussi l'initiateur de beaucoup d'événements qui font vivre nos territoires. Moi, je pense à Deusta, on peut penser à la Randorade, à Redadec, et plein d'événements comme ça qui ont fait vivre nos territoires. Et aujourd'hui, Diwan est en difficulté et... on appelle aussi à ce que Diwan soit soutenu dans cette situation de crise, parce que Diwan est un élément essentiel de la défense de la langue bretonne, un élément essentiel de la défense de la culture bretonne, et on espère de tout cœur que l'on trouvera une solution pour faire vivre ce réseau dans les années à venir. Et à Brest, c'est dans le sens des politiques qu'on mène, parce qu'on soutient Diwan en leur fournissant des locaux depuis des années, on est à leur écoute et on travaille très fortement avec eux aussi, et on a réellement cette inquiétude. Et on espère de tout cœur qu'on trouvera une solution pour sortir Diwan de la crise.
Voilà, des inquiétudes, mais rien n'est perdu, hein, si je traduis votre message. Un mot de foot, Brest s'en est bien sorti hier soir? Vous n'êtes pas très branché foot.
Je ne suis pas un très grand supporter.
Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil au stade brestois, voilà. Merci en tout cas d'être venu parler politique et non pas sport ce matin. Tarand Marek, secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal délégué à la vitalité de la langue bretonne à Brest. Et ça, c'est important également. Je vous souhaite une très belle journée.
Belle journée à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.